Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par le pasteur Franck Massler de l'Église protestante unie de Nîmes, paroisse du centre-ville. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Oui, bonjour, ce culte reprend la thématique de Pâques, la résurrection du Christ. C'est donc bien de le mettre aussi un peu dans ce contexte-là, pour ce matin. Je vous propose de prendre le temps pour une inspiration afin de se préparer à ces temps de culte et de célébration. Je vous invite à accueillir la grâce, la joie et la paix de Dieu dans votre cœur et dans votre vie, car nous célébrons la vie, la victoire de la vie, la résurrection de Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, parfois, le doute peut exister en nous. Tous les jours, c'est pas facile. Parfois, on peut se sentir seul dans un monde si peuplé. Mais affirmons-le encore une fois, nous affirmons la victoire de la vie et la résurrection de Jésus le Christ. Il a vaincu la mort, son tombeau est vide, la pierre a été roulée, il a ouvert la porte, toutes les portes. Et là, ceci veut dire que je peux vivre, que je peux ressusciter, et toi aussi. Ressusciter, ça veut dire j'ai un avenir. Ça veut dire il y en a un qui se souvient de moi, toujours. Ça veut dire je reprends l'espoir. Je me relève. Je vous invite à accueillir la grâce, la joie et la paix dans votre vie, dans votre cœur. Prions ensemble, louons notre Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Louange à toi, Jésus. Merci pour chaque fois que nous pouvons voir ta force à l'œuvre dans notre vie et dans le monde. C'est vrai que en chacun de nous, il y a toujours des réalités sombres, de mort, de rejet, de souffrance, d'angoisse. Mais la résurrection reste vraie. Un jour, tu as allumé comme une étincelle de lumière pour nous tirer vers toi, qui est lumière du monde. Et ainsi, chaque jour, à chacun de nous, tu nous souffles, allez, debout, n'abandonne pas, prends ta vie comme un don, comme un défi. Ta résurrection, notre Seigneur, est définitivement inexplicable. C'est le merveilleux, le paradoxal, le surprenant. Chaque jour est une raison supplémentaire de nous étonner, de nous émerveiller devant cette vie qui grandit, qui rit et qui se bat. Oui, à toi la gloire. Amen. Et je vous propose de continuer ce temps de louange en chantant ensemble le cantique, deux strophes de ce cantique, libre de nos chaînes.
Souveraine, enfermis nos pas,
Prions ensemble pour dire notre fragilité. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes pas toujours debout, pas toujours courageux, pas toujours en route, pas toujours comme ressuscités. Il nous arrive de ne pas voir l'horizon, que la terre devant nous. Il nous arrive d'être couchés des journées entières sans pour autant se retrouver dans un lit bien au chaud. Nous sommes des humains que tu cherches sans cesse. Des humains que toi, tu veux remettre debout pour être pleinement en lien avec toi et avec les autres. Tel que nous sommes, nous te présentons à toi. Amen. Alors écoutez l'annonce du pardon de notre Dieu par les paroles du prophète Ésaïe, que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Nous avons faim et soif de ton pardon, soyez heureux car il nous pardonne. Nous avons faim et soif de sa présence, alors soyez heureux car il vient demeurer en nous, nous fortifier, nous guider. Nous avons faim et soif d'amour, alors soyez heureux car Dieu nous aime et nous pardonne. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Et ainsi nous pouvons chanter ensemble le chant « Quel ami fidèle » les deux strophes.
Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh oh oh, 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 oh oh oh. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh.
pour cette prédication ce matin, j'ai préparé deux lectures bibliques. L'une se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 20, c'est le récit de la résurrection. Et la deuxième lecture sera dans Galates 3, donc c'est une lettre de Paul, qui sera lue un peu plus tard. Mais prions d'abord. Notre Dieu, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Amen. Donc voici le récit selon l'évangile de Jean, chapitre 20, les 10 premiers versets. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse bière à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors, elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui, il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre, il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu, il est encore enroulé à part à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient, Jésus doit se relever de la mort. Ensuite, les deux disciples retournent chez eux. Alors j'aimerais juste faire quelques remarques par rapport à ce premier texte. C'est vrai qu'il y a une sorte de diminution du rôle des femmes, donc Marie-Madeleine au début, pendant que dans les autres évangiles, il y a une part bien plus grande qui est accordée à Marie de Magdala et les autres femmes. Ici, ça se fait en un seul verset, et elle retourne donc sans avoir rencontré le Seigneur. Ce qui est le cas dans les autres évangiles. Ici, elle repart. Elle va rencontrer donc Simon-Pierre, les disciples chefs, et elle va aussi rencontrer l'autre disciple, ce jeune homme, celui que Jésus aimait dans l'évangile de Jean. Et ensemble, ils vont faire une drôle de course. Ça dit un peu l'urgence. Déjà, Marie-Madeleine aussi courait. Ici, les deux hommes courent à leur tour. Et comme c'est souvent le cas, les jeunes sont plus rapides. C'est vrai que s'il y a quelques années encore, j'ai pu concurrencer avec mon fils, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est bien plus rapide que moi, et pas que sur les pieds, aussi dans la tête. Et donc, le plus jeune va arriver en premier. Mais il va s'arrêter, comme s'il n'osait pas entrer. C'est l'autre disciple, Simon-Pierre, donc Pierre, qui va rentrer et qui va constater l'absence du corps. Ça se voyait déjà de l'extérieur, mais il voit un peu plus de détails. Et ensuite seulement, c'est le jeune disciple qui rentre. Et là, on nous précise qu'il voit et qu'il croit. C'est comme si, pour lui, c'était une évidence qu'en partant du regard de ce qu'il voit, il va aussi comprendre, enfin. Comme si il y avait là un voile qui se lève. L'essentiel est ici donc de croire, de faire confiance, de rentrer dans cette nouvelle manière d'être avec Dieu. On ne dit pas si Pierre y arrive aussi, et vous connaissez d'autres histoires, peut-être les disciples d'Emmaüs, où la même thématique est abordée. L'essentiel n'est pas de voir, mais de croire. Et quelque part, en fait, c'est l'histoire de Jésus tout court, en fait, qui relatée dans les chapitres précédents, où on voit très bien que la question centrale, en fait, c'est celle-là. Est-ce qu'on arrive à croire, à rentrer dans une autre dimension de la relation avec Dieu? La résurrection, quelque part, est une sorte de confirmation, en fait. Donc Jésus qui a montré que Dieu est à la même distance de chacun et chacune, qui aiment chacun de la même manière, et bien voilà, Dieu, comme pour confirmer, ressuscite Jésus. Il dit ainsi, voilà, Jésus, il avait raison par ce qu'il a fait, par ce qu'il a dit. Juste quelques remarques, et maintenant j'aimerais passer à la deuxième lecture, parce que s'il y a une conséquence immédiate de la foi, donc par rapport à notre relation par rapport à Dieu, la même distance pour tout le monde, il y a aussi un impact immédiat et assez radical par rapport à notre fraternité mutuelle entre croyants. Et donc là, je vais vous lire Galates 3, des versets 6 et 26, en tout cas des extraits. Paul dit « Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, c'est clair. On lit aussi « Celui qui croit en Dieu est juste, ainsi il aura la vie. » Donc vous avez là ici la même thématique, hein, croire et voir, et puis anciennement l'obligation d'obéir aux lois. Maintenant, dit Paul, le temps de croire au Christ est arrivé. Oui, en croyant au Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc dans la famille d'Abraham, vous êtes héritier comme Dieu l'a promis. Donc vous l'avez bien entendu, ce qui est la base de notre relation à Dieu n'est plus la loi, l'obligation d'obéir, mais la foi. Ce qui caractérise de manière essentielle notre relation de manière fondamentale, c'est la confiance en ce Dieu qui se révèle en Jésus comme un Dieu d'amour. Et quelque part, pour notre vie, cela change tout. Donc, et c'est peut-être bien à entendre encore une fois, toute ta vie, tout ce que tu fais, sera foncièrement transformé par le fait que tu es inconditionnellement reconnu et aimé. Ainsi, ton avenir t'appartient, l'espoir est possible, rien n'est fichi, rien n'est figé. En fait, la vie est toujours plus forte que la mort. C'est un peu la base, le centre du message pascal. Et c'est le message de la vie et des paroles de Jésus. C'est ce qu'il a pratiqué tout au long de sa vie. La résurrection l'a confirmé. Dieu l'a confirmé. Une relation nouvelle et différente de chacun et chacune avec Dieu, voilà le cadeau que Jésus nous a fait. Avec Dieu, comme au début de ce culte, eh bien, tu peux respirer. Et puis, et c'est ce qui est là où il y a donc une conséquence supplémentaire, aussi nos relations avec les autres peuvent être renouvelées, être différentes avec ce qui existait avant. Et c'est de cette relation différente avec les autres que Paul parle dans la lettre aux fidèles de Galates. Et là, on parle de fraternité, on va dire, radicale. Et c'est ce que je trouve remarquable. Ce qui est le plus frappant dans ce texte, c'est la conséquence de la foi basée sur la résurrection est en fait ici marquée comme une fraternité très particulière, une fraternité qui n'a aucune limite. Je recite Paul, « Oui, en croyant au Christ, vous êtes tous filles et fils de Dieu, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. » Vous voyez, jusqu'ici, ça va encore, jusqu'ici, il est juste dit que nous sommes tous fils et filles, donc à la même distance, ou on pourrait dire à la même proximité à Dieu. Par contre, et c'est la déduction, ce qui est vraiment radical pour le vivre ensemble, c'est ce qui suit immédiatement après. Et Paul dit, il n'y a donc plus de différence, hein, tous même distance, tous aimés, il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs, les esclaves et les personnes libres, les hommes et les femmes, car nous sommes tous un en Christ. Et c'est là, en fait, où le message de Pâques percute de manière assez violente le monde. Plus aucune distinction entre hommes, femmes, juifs, non-juifs, esclaves, hommes libres. Basé sur l'idée d'un Dieu d'amour qui aime tous les humains et qui invite les humains à imiter cet amour. Il faut bien rappeler le contexte historique de l'époque. Jésus naît dans le judaïsme du 1er siècle, dans les sociétés romaines et grecques du 1er siècle. Et là, cette fraternité dont parle Paul est une révolution, en fait. C'est une sorte de bombe, quelque chose de complètement incongru et inconnu. La résurrection et la foi ouvrent l'accès à un espace complètement différent de ce que l'on pouvait vivre à l'époque, l'Église, une fraternité radicale qui nous rend égaux, égalité entre hommes-femmes. Eh bien, vous sachez qu'il n'y a guère d'autres sociétés aussi misogynes que la société grecque de l'époque. Même avant Sibambeï, la France était un pays bien plus sympathique pour les femmes que la société grecque ou romaine à l'époque. Donc pour Paul, hommes et femmes sont égaux dans l'Église. Juifs et non-juifs devraient être réunis dans une seule Église. Esclaves et hommes libres mangent à la même table. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est fait naturellement à l'époque. Au contraire. Et c'est un fait. Effectivement, 1er siècle, 2e siècle encore, des femmes ont dirigé la vie d'église. Il y a eu des esclaves qui mangeaient à la même table avec leur maître. Il y avait des personnes, juifs et non-juifs, réunies en un seul lieu. Et c'est pour cela, en fait, que je suis assez heureux de vivre ma foi dans une église, l'Église protestante unie, dans laquelle tous, pasteurs et autres responsables inclus, sont à la même distance, à la même proximité de Dieu. Et je suis content que dans mon église, hommes et femmes peuvent être pasteurs et reçoivent le même salaire. Et je suis heureux que dans mon église, on ne connaît pas de distinction raciale. C'est un peu la base. L'amour de Dieu ouvre un espace qui gomme la différence et la discrimination sexuelle, religieuse et sociétale. Maintenant, je sais aussi que l'Église n'a pas pu vivre cette égalité radicale, fraternité radicale, très longtemps. En fait, la pression extérieure et les réflexes intérieurs étaient trop grandes. L'idéal paulinien a été abandonné assez rapidement. Et pourtant, et il me semblait important de le souligner, car c'est vrai, pour toujours, l'amour de Dieu nous rend égaux, quoi que fasse la société, quoi que se dise en l'Église. L'amour de Dieu exige que nous cherchions toujours égalité et fraternité entre nous, tout simplement parce que Dieu est amour, parce que Dieu aime ton prochain qui devient alors ton frère. Cette exigence persiste. Voyez, le cadeau de l'amour et l'espérance d'une vie autre reste vrai. Il y a là un élément, je l'accorde, utopiste et même subversif. Un élément contestataire, presque un élément punk de la foi chrétienne. Quelque chose qui dérange et qui dérangera toujours dans la société et même dans l'Église. C'est quelque chose que personne d'entre nous réalisera jamais complètement, mais qui doit rester l'horizon de notre action, la vision de nos rêves, la motivation ultime de nos actions. Alors concrètement, qu'est-ce que la foi qui naît de l'amour de Dieu aurait à dire au monde d'aujourd'hui? La société d'aujourd'hui, et ce point de vue n'engage bien entendu que moi, la société d'aujourd'hui est marquée par un manque de fraternité, marqué par le clivage, par les oppositions, la méfiance et même un pessimisme assez grandissant. Comme si nous étions sur une pente sur laquelle nous étions obligés de glisser vers quelque chose de pire, toujours. Et bien là, voilà, le cœur de la foi, en revanche, contrairement à cela, est porté par l'espoir, l'optimisme, l'amour et la fraternité, parce que la mort a été vaincue une fois pour toutes. Nous sommes, en fait, en tant que chrétien, à l'opposé du courant majoritaire de la société. Et personnellement, je trouve que c'est un contre-courant magnifique. La foi nous rend optimistes, la foi nous libère et nous devrions en témoigner autour de nous. Car rien n'est impossible à ce Dieu d'amour qui a vaincu la mort. que notre vie de fils et de filles de Dieu soit une protestation vivante tous les jours contre le pessimisme, une résistance lumineuse contre le désespoir, une marche joyeuse pour la fraternité et l'égalité, car Dieu nous a rendus libres. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Nous pouvons chanter « Victoire au Seigneur de la vie », il y a 3 strophes. Je vous lis maintenant une confession de foi. Qu'autrefois, Jésus ait été relevé entre les morts pour entrer dans une vie sans limite, je le crois. Que demain, plus tard, dans un avenir qui n'appartient qu'à Dieu, nous soyons à notre tour relevés de la poussière des tombeaux, je l'espère et je le crois. Mais ce qui m'importe, c'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la même force qui a autrefois relevé Jésus d'entre les morts, soit à l'œuvre là où se pourrissent des hommes sans joie et sans espoir, des hommes piétinés et oubliés. C'est qu'aujourd'hui, dans ta vie et dans la mienne, la même force soit à l'œuvre pour nous remettre debout et pour tuer la mort qui est toujours en nous. Oui, je crois que la résurrection du Christ est une brèche dans l'histoire de notre monde. Je crois que la nuit, la mort, la haine ne sont pas des facilités. Je crois que l'amour de Dieu me dépasse, qu'il me précède et qu'il m'attend. Je crois à la résurrection. Amen. Je trouve que cette confession de foi résume bien la prédication, nous permet d'aller plus loin, de regarder plus loin. Et c'est dans ce même esprit que je vous propose de prier maintenant les uns pour les autres, d'ouvrir donc l'horizon, d'élargir notre horizon pour remettre à Dieu ceux et celles qui souffrent dans le monde. Prions. Notre Dieu, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos frères et nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Et fais de nous des ouvriers de paix, là où nous vivons. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Et nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière, tous ceux que nous aimons et tous ceux et celles que nous n'arrivons pas à aimer, tous ceux avec qui nous travaillons. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Et enfin, nous remettons nous-mêmes à toi et à ton amour, afin que tu nous gardes près de toi et en même temps que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Et si vous le souhaitez, vous pouvez dire avec moi la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de chanter ensemble « À toi la gloire », nous recevons la bénédiction de notre Dieu. Le Seigneur te bénit et te garde. Il te gardera de tout mal. Il sera pour toi protection dans le péril et refuge dans l'angoisse. Le Seigneur fait briller sur toi son visage comme le soleil sur la terre qui donne chaleur à ceux qui ont froid et joie à tous les vivants. Le Seigneur fait briller son visage. Il te donne sa grâce quand le péché se fait trop lourd. Il brise les liens du mal. Le Seigneur tourne vers toi sa face. Il a vu ta souffrance. Il a entendu ton cri et il te sauvera. Il te consolera. Le Seigneur tourne vers toi sa face. Il te donne sa paix qui est guérison du corps et de l'âme, qui est l'amour et la joie. Amen. Et nous chantons les trois strophes du cantique « À toi la gloire ».
À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ressuscité.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Franck Massler de l'Église protestante unie de Nîmes, paroisse du centre-ville. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.
Christ est vainqueur, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.